France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série de 7 semaines consacrée à la vengeance. Aujourd'hui, à quoi bon la vengeance? Et nous allons cheminer avec Hegel et Nietzsche. Hegel est considéré comme le philosophe qui, au XIXe siècle, a théorisé la différence entre la vengeance et la justice. Il y a une rationalité dans la justice que la vengeance piétine forcément, dit Hegel, car la vengeance est mue par des affects inscrits dans le seul point de vue de la subjectivité blessée. Étrangement, Nietzsche, qui s'oppose à Hegel à peu près sur tout, a en commun avec lui de détester la vengeance. Dans certains passages de la Généalogie de la morale de 1887, il la critique comme Hegel au nom de la véritable justice. Celle-ci, affirme Nietzsche, que je cite, « doit savoir mettre un terme à la rage absurde du ressentiment en arrachant l'objet du ressentiment aux mains de la vengeance ». Cependant, en général, c'est plutôt au nom du rapport à la vie que Nietzsche honnit la vengeance. L'agressivité qui s'exprime naturellement quand on est mordu par la vie, ça d'accord, dit Nietzsche. Mais l'envie de se venger, c'est froid et misérable, c'est un calcul obsédé par un point du passé. Tout cela excite les rêves d'un autre monde où tout le mal de cette vie devrait un jour être vengé. Des philosophes très différents donc, Hegel et Nietzsche, mais une commune critique de la vengeance. Nous allons regarder cela de près. Bonjour Claire Pagès.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie sociale et politique à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez publié en 2015 aux éditions du CNRS un livre qui est le fruit de votre thèse de doctorat, Hegel et Freud, Les intermittences du sens. Et je cite aussi votre livre paru chez Ellipse en 2010, Apprendre à philosopher avec Hegel. Et bonjour Lucie Le Breton.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie au lycée Victor Hugo à Paris, chargée de cours à la Sorbonne, électrice assidu de Nietzsche, sur lequel vous avez fait votre thèse de doctorat, Vous aussi. Vous avez publié Nietzsche, lecteur de Pascal, aux éditions Honoré Champion. Je vous propose, pour commencer notre réflexion sur la vengeance selon Nietzsche et Hegel, d'écouter cet extrait de la deuxième partie du Parrain de Francis Ford Coppola, où Michael Corleone apprend qu'il est trahi par son frère Fredo. Il se venge et s'adresse à son frère en ces termes.
Tu n'es plus rien pour moi. Ni un frère, ni un ami. Je ne te connais plus et je ne veux pas savoir ce que tu deviens. Je ne veux plus te voir dans les hôtels, ni rôder près de ma maison. Quand tu viens voir notre mère, je veux être prévenu un jour à l'avance pour ne pas te rencontrer. Tu as compris.
Il laisse donc son frère en vie tant que leur mère est vivante, mais c'est une néantisation, si j'ose dire, impressionnante. Tu n'es plus rien pour moi. La vengeance, Claire Pagès, a-t-elle toujours ce parfum de radicalité ?
Eh bien, chez Hegel, c'est... Il s'agit d'une des contradictions de la vengeance qui tient justement, comme on l'entendait, à son excès d'efficacité, hein, au fait que l'action vengeresse dépasse très souvent les intentions du vengeur. Et Hegel utilise souvent l'exemple de l'incendiaire qui voulait mettre le feu au pas de porte de son ennemi et puis c'est toute la maison qui prend feu. Voilà, et donc c'est une des premières difficultés avec la vengeance, c'est cette contradiction des effets.
C'est son excès. J'ai dit radicalité, mais au fond, c'est plutôt ça, c'est excès. C'est naturel, Lucie Le Breton, que la souffrance d'une agression, quelle qu'elle soit, est toujours quelque chose de démesuré. C'est pas réparable. La justice se charge parfois de réparer, mais sur le plan des affects, il y a une blessure qui ne peut pas immédiatement ni sans doute totalement cicatrisé, d'où l'excès que constitue la vengeance toujours.
Alors effectivement, Nietzsche explique que la vengeance, c'est quelque chose qui est généré par la souffrance, et c'est une tentative d'étourdir sa souffrance en faisant souffrir l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il explique bien que celui qui souffre cherche une explication à sa souffrance, enfin en tout cas une cause.
Une cause, il le dit souvent.
Un agent,
hein.
Un coupable, un coupable susceptible de souffrance. Et c'est en le faisant souffrir, faire souffrir chez Nietzsche procure à l'évidence du plaisir. Hein. Pour lui, l'instinct de cruauté est un des plus puissants hein, chez nous, y compris chez l'homme civilisé. Et c'est ce plaisir qui doit faire concurrence à la souffrance, de manière à la chasser en quelque sorte de la conscience. Et donc Nietzsche décrit la vengeance comme une forme de narcotique. Hein, il s'agit de d'étourdir sa souffrance, mais bien évidemment chez Nietzsche, le narcotique n'est pas un remède.
Alors on va comprendre un peu plus tard dans l'émission pourquoi Nietzsche est plutôt bienveillant à l'égard de l'agressivité immédiate, où on répond, parce qu'on est vivant, et que quand on est agressé, on répond. Et pourquoi la vengeance, quelque chose qui est ruminé dans la vengeance, ce calcul que vous venez de dire, qui est en même temps un narcotique, c'est ça qui est un peu difficile, on réfléchit à comment faire souffrir l'autre, etc. Ça, il n'aime pas. Ça, il trouve que ça n'a rien à voir avec la vitalité de l'agressivité qui répond, effectivement, quand on est soi-même agressé.
C'est-à-dire que quand Nietzsche parle de la vengeance, il faut vraiment distinguer deux types de vengeance. Il y a la vengeance qui réagit, effectivement, et celle-là, Nietzsche la juge pas de manière excessivement négative. Dans certains cas, il considère que c'est une réaction finalement assez saine. Il parle même dans certains ouvrages d'une aptitude à la vengeance, comme si c'était quelque chose d'estimable. En revanche, la vengeance, qui est pour lui proprement la vengeance, c'est ce qu'il appelle le ressentiment, et qui est une vengeance impuissante, rentrée. Et donc, en fait, la réaction n'est pas en acte, elle est plutôt affective. Et donc, c'est de la rancune, de la rancœur, qui va d'abord se satisfaire de manière imaginaire. Oui. Si on veut avoir un exemple de vengeance imaginaire, il faut regarder les pages de la première dissertation de la généalogie de la morale, où il cite longuement Tertullien, qui se délecte d'imaginer toutes les grandes figures du monde antique brûlant dans les flammes de l'enfer.
Ça, les pères de l'Église, c'est à peu près l'exemple type de l'homme du ressentiment. Il y a déjà Paul, on va y revenir, qui, pour Nietzsche, est le prototype. Hein. Après les rabbins, comme il a dit, il y avait eu Jésus qui a été quelque chose de lumineux.
Voilà.
Et puis Paul qui a remis une logique de prêtre et de rabbin, dit-il. Oui. Mais nous expliquerons tout cela. Je voudrais qu'on commence néanmoins par Hegel, notamment pour des raisons chronologiques. Hegel, son problème, Claire Pagès, c'est vraiment la justice. Et donc, c'est vraiment, de son point de vue, la rationalité. C'est un problème qui n'est pas du tout au cœur de la réflexion de Nietzsche.
Tout à fait, oui.
Mais il y croit que la justice peut vraiment actualiser une rationalité.
Oui, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont Hegel parle de la vengeance. C'est que ça n'est absolument pas une critique morale de la vengeance. Ce que Hegel met en avant, c'est la dimension contradictoire de cette manière de répondre à la négation du droit. Donc, c'est la question de la rationalité. La vengeance, elle est contradictoire. On va y venir. Il y a cet excès des effets, il y a le risque de la vendetta, il y a le fait que l'acte vengeur souvent ressemble au déni du droit, alors que la peine va chercher plutôt une proportionnalité. Donc il se place pas du tout sur il n'est pas dans une évaluation morale hein, où les caractères vengeurs seraient vicieux. Il se place sur le plan de qu'est-ce qui va permettre l'organisation du droit et d'une société juste et l'organisation des libertés. Et ça, il y croit, effectivement.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait de sa propédeutique philosophique, paragraphe 21. Alors,
pour préciser, ce texte est constitué par les cours de philosophie de Hegel qu'il a professé entre 1809 et 1811 à Nuremberg. Et là, il s'exprime sur la différence entre justice et vengeance.
Il ne faut pas que l'acte de réparation soit exercé par l'individu lésé ou par ceux qui dépendent de lui. Car chez eux, la restauration du droit en son caractère universel se trouve liée au caractère fortuit de la passion. La réparation ne peut être l'œuvre que d'un tiers, commis à cet effet, qui ne fasse valoir et n'effectue que de l'universel. Dans cette mesure, elle est punition. La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. C'est pourquoi il faut que la réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue son rôle et le droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi bien, le droit qui prend la forme de la vengeance constitue à son tour une nouvelle offense, n'est senti que comme conduite individuelle et provoque inexpiablement à l'infini de nouvelles vengeances.
Nicolas Berger, de notre équipe, prête sa voix aujourd'hui à Hegel. Claire Pagès, le droit qui prendrait pour lui une logique de vengeance, qui serait une vengeance, ça se voit, ça, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe ?
Ah, oui, c'est grave, puisque c'est un droit qui n'est pas en mesure de réparer et donc d'annuler le déni du droit, que ce soit un délit, un crime ou une infraction, puisque alors il est dit punition, mais il est question de la peine. La peine pour Hegel, grâce à l'intervention du juge, du tribunal, qui est le porte-parole de la loi, c'est ce qui permet de réconcilier les individus qui sont les protagonistes de cette affaire. Et si la justice est vengeresse, eh bien, elle va poser des actions en chaîne ou à l'infini. Elle va entraîner des nouvelles vengeances. Hein, et c'est, finalement, la vengeance, c'est une des figures du mauvais infini pour Hegel. C'est quelque chose dont on ne sort pas et dont la communauté sociale ne sort pas. Et il y a toujours ce risque pour Hegel que les justices historiques soient pleines de vengeance résiduelle. C'est quelque chose qu'il envisage.
Du fait de l'opinion publique, qu'on a beaucoup de mal à laisser en dehors des tribunaux ?
Oui, ou si les juges mêlent à la représentation de la loi, effectivement, des intérêts particuliers, qui peuvent être des intérêts de classe, hein, par exemple, ou si les peines sont disproportionnées.
Et vous pensez que cette rationalité aujourd'hui du droit, elle s'exprime mieux avec le temps, donc il est bon que les juges, les procès soient tardifs par rapport aux faits qu'ils jugent, ou au contraire, on sort complètement du temps des crimes ou des délits qu'on juge et on n'a aucune chance, des années après, de juger rationnellement.
C'est une bonne question. Je crois que pour Hegel, la logique de la peine, hein, qui est la logique de la justice, c'est effectivement une logique du temps qu'on se donne, puisque la peine, c'est une des grandes figures de la médiation pour Hegel. C'est le fait que la loi, elle va pouvoir être faite et être entendue du fait qu'elle vient d'un tiers, un juge, dans un tribunal. Et donc, voilà, elle dépend plus de l'intérêt particulier des individus qui sont aveuglés par ce qui leur arrive. Et effectivement, avec la distance, avec le recul, la logique de la peine, pour lui, c'est la possibilité de la justice. C'est aussi la possibilité de parler. C'est très important qu'il y ait des procès pour Hegel, de parler de ses actes, de pouvoir se défendre.
Est-ce qu'on pourrait dire que si tout est dialectique pour Hegel, je crois ne pas prononcer un trop gros mot, c'est-à-dire si tout se corrige, connaît des conflits, des contradictions, puis se dépasse, et ainsi va l'histoire, le jugement qui concerne la justice dépasse toujours dialectiquement la logique de vengeance. Donc ça ne se fait pas en un jour et sans doute pas en un seul procès. Le bon jugement, le jugement idéal, le jugement juste, c'est peut-être à la fin de l'histoire seulement qu'il advient.
Ah oui, et d'ailleurs, finalement, on dit que l'histoire jugera. Hein, oui. Parce qu'il faut pouvoir se retourner sur des choses qui sont derrière nous, qui ont été faites dans l'après-coup, pour avoir la sérénité du regard qui juge et qui évalue sans les passions, vengeresses ou d'autres passions, qui biaisent le regard qu'on peut avoir sur l'histoire.
Alors c'est très troublant, Lucie Le Breton, de voir dans la généalogie de la morale, qui est un texte qui condamne fortement ce que Nietzsche appelle le ressentiment et que vous avez déjà évoqué, on va y revenir. C'est très étonnant de voir ce passage que j'ai lu où il dit que la vengeance n'est pas la justice, on dirait du Hegel dans le texte. Et c'est vrai que, j'avoue, je ne comprends pas bien la question du jugement, qui est bien la question que nous venons de saisir à l'intérieur du problème de la justice par rapport à la vengeance pour Hegel. C'est un problème qui, chez Nietzsche, n'a pas de solution. Y a-t-il un jugement universel? Y a-t-il un jugement rationnel? Y a-t-il une justice de l'histoire? Franchement, c'est pas son problème, non?
En fait, Nietzsche arrive effectivement à des conclusions similaires à Hegel, mais le chemin qu'il emprunte est très différent. C'est-à-dire que lui, il interprète la justice en termes de volonté de puissance, donc en termes de logique d'intensification de puissance.
Oui.
Et pour lui, la justice, en fait, a pour origine la protection des intérêts d'une puissance collective.
C'est-à-dire donc il est normal qu'il y ait de la vengeance dans la justice des hommes.
Alors, en fait, la vengeance, pour lui, va être contrecarrée en tant que déperdition de puissance. C'est-à-dire que pour une communauté donnée, la communauté ressent le danger et la déperdition de puissance que représenteraient des conflits entre parties, particulièrement lorsque ces parties sont de puissance équivalente et où, en fait, le conflit risque d'être sans fin.
Ah oui, j'ai compris. Vous voulez dire que la logique de la communauté, c'est de ne pas appuyer sur le bouton qui renforce la vendetta. Donc, c'est presque par intérêt
c'est complètement
pour asseoir
par
sa
intérêt
puissance qu'un tribunal sort de la stricte logique de vengeance pour créer un jugement acceptable.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Nietzsche décrit finalement la justice comme une manière de contraindre les parties à s'arranger, à composer, à accepter des équivalents aux dommages causés,
oui,
pour préserver la puissance du tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que une erreur qui est communément faite, c'est d'associer Nietzsche au discours de Calliclès dans le Gorgias, qui oppose, voilà, de Platon, qui oppose nature et loi, en se disant, finalement, Calliclès est un Nietzsche avant la lettre. En fait, Nietzsche dit rigoureusement l'inverse de Calliclès, c'est-à-dire que Calliclès dit la loi a été inventée par les faibles pour soumettre les forts. Nietzsche dit au contraire, la justice a été inventée par les forts pour empêcher les faibles de nuire à la puissance collective. Et donc,
à condition qu'elle soit pas aux mains de tous les faibles. Hein. Et en démocratie, voilà, un régime qu'il honnissait, il dirait quand, oui, même que la loi exprime la volonté des faibles. Il le dirait, non?
Alors c'est vrai qu'il est très critique à l'égard de la démocratie.
Oui. C'est d'ailleurs un drame, hein, parce que franchement, c'est un petit peu un problème, parce qu'on se demande si les aristocraties sont tellement meilleures de son point de vue. Lui, mais qui n'a ni la race, ni la classe, ni la naissance, la noblesse, la force et autre chose, on ne comprend pas très bien pourquoi il préfère encore les aristocraties aux démocraties.
Oui, mais je pense que réellement la justice pour lui, indépendamment du type de régime, c'est une expression de la puissance, mais qui est réfléchie, prudente, ce qu'il appelle spiritualisée, en fait. Donc ça reste une expression de la puissance, donc c'est une expression intelligente. Mais donc ça n'est pas du tout étranger au reste de sa réflexion.
Mmh. Donc il y a un peu la question de la justice. N'est pas si surprenant que cela chez Nietzsche.
Non, si vu de l'intérieur, ça n'est pas si surprenant. Mmh.
Alors, il semble y avoir quand même chez Hegel des zones exceptionnelles où la vengeance l'intéresse. Et on peut le comprendre, c'est quelqu'un qui met la notion de grand homme dans l'histoire, sans doute de grande femme, mais bon, ça ce serait pour adapter Hegel à aujourd'hui, il ne le dit pas comme ça. Mais la grandeur, l'héroïsme, c'est très important. Or, nous l'avons vu dans cette série, la vengeance est souvent une des caractéristiques du héros, probablement d'ailleurs même pour se construire comme tel. Vous pourriez m'expliquer comment Hegel gère ses propres contradictions, dialectiquement je suppose, comme toutes les contradictions de l'histoire, mais comment ça marche, comment il synthétise tout cela?
Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Ce dont on a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon, c'est la question du fondement du droit pour Hegel. Et donc là, le fondement du droit, c'est une justice qui n'est pas vengeresse, c'est l'organisation rationnelle des peines. Mais il y a toute la question de l'origine du droit et des États. Et à l'origine de l'histoire ou des histoires, il y a des héros, des chevaliers errants, comme il dit, il y a des grands hommes qui, pour instaurer ces premières sociétés, ont fait l'usage de vengeance, de violence. Et donc, dans le droit avant le droit, il y a tout un exercice de la vengeance et de la violence. Hein, qui est liée à l'origine de l'histoire et des sociétés. Et puis, il y a des héros. Hegel, c'est quelqu'un qui aimait aussi passionnellement la Grèce, et puis les épopées, l'art grec, et qui a écrit énormément de choses là-dessus. Et donc, il s'est intéressé en particulier à toute la dimension de vengeance dans les héros des épopées homériques, en particulier, en s'intéressant aux affects qui sont le cœur de l'art grec, hein, et qui intéressent à la fois les œuvres et les spectateurs de ces œuvres. Et voilà, il avait un amour particulier pour la figure d'Achille.
Achille qui a beaucoup d'affects, hein. Oui. C'est pas un grand rationnel. Hein.
Non.
On écoute ce passage des cours d'esthétique de Hegel. Il s'agit d'un cours professé entre 1818 et 1829 à Berlin.
Chez Homère, chaque héros est tout un ensemble vivant de qualités et de traits de caractère. Achille est le plus juvénile des héros, mais il ne manque pas à sa force juvénile les autres qualités authentiquement humaines, et Homère nous dévoile cette multiplicité dans les situations les plus diverses. Achille aime sa mère, Thétis. Il pleure Briséis quand elle lui est ravie, et son honneur offensé le pousse au conflit avec Agamemnon, qui constitue le point de départ de tous les épisodes ultérieurs dans l'Iliade. Outre cela, il est le plus fidèle des amis pour Patrocle et Antilochus, tout à la fois le plus fougueux et le plus resplendissant des jeunes hommes, rapide, hardi, mais plein de respect pour la vieillesse. Le fidèle Phénix, son serviteur en qui il a confiance, gît à ses pieds. Et lors de la cérémonie des obsèques de Patrocle, il manifeste au vieillard Nestor les plus hautes marques de respect et d'honneur. Mais tout aussi bien, Achille se montre aussi irritable, impulsif, écumant, ivre de vengeance et plein de la plus dure cruauté envers l'ennemi lorsqu'il abat Hector, attache son corps à son char et traîne ainsi le cadavre à toute vitesse trois fois autour de Troie. Et pourtant, il se radoucit lorsque le vieux Priam vient le trouver dans sa tente. Il pense à son propre vieux père qui est là-bas chez lui, étant au roi en pleurs la main qui a tué son fils. Avec Achille, on peut dire « voilà un homme ».
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
À quoi bon la vengeance ? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Quatrième épisode de notre série sur la vengeance. Je suis en compagnie de Claire Pagès et de Lucie Breton. Nous parlons de Hegel et Nietzsche, qui ont en commun de ne pas aimer la vengeance, même s'ils s'opposent sur plein d'autres choses. Claire Pagès, dans ce texte que nous venons d'entendre, Hegel fait l'éloge d'Achille, qui est un être d'affect, qui se venge, qui est cruel, notamment dans cette scène où il promène la dépouille d'Hector qu'il a vaincu. J'arrive pas bien à comprendre comment Hegel arrive à mêler une admiration pour cette vengeance-là, alors que par ailleurs il déteste la vengeance et les affects, et il pense qu'ils doivent être dépassés dans une position de justice plus rationnelle qui met ces affects de vengeance de côté.
Oui. Alors, c'est un texte moi, que je trouve extraordinaire, mais c'est un texte dans lequel il commente ce qui fait la réussite de l'épopée. Et alors, c'est quand même au cœur de l'épopée ce qui intéresse le spectateur, c'est le pathos qui est au centre de la représentation artistique. Là, finalement, on n'est plus dans le droit, on est dans les passions qui font la force de l'épopée. Ce qui est peut-être ce qui peut permettre de comprendre ce qui apparaît comme une contradiction, c'est que ce que Hegel aime dans Achille et dans les grands personnages homériques, c'est que c'est leur richesse de caractère. Ce sont pas des personnages qui sont mus par un seul affect. D'ailleurs, Hegel nous dit qu'il y a des personnages dans la tragédie qui sont uniquement des puissances de vengeance, des puissances vengeresses. Et ces personnages-là, ils sont pas très intéressants. Ce qu'il aime dans Achille, c'est la multiplicité des affects réunis. Le fait que Achille, il est d'une cruauté horrible en traînant le cadavre d'Hector, et puis en même temps c'est un cœur tendre qui aime sa mère Patrocle Briséis, et il est tout ça à la fois. Ce que j'aime beaucoup là dans l'extrait qu'on a entendu, c'est que Achille c'est à la fois un héros et puis voilà un homme, c'est nous. Et pour Hegel, c'est ça l'humanité, c'est être un monde où supporter une contradiction en gardant une certaine fidélité à soi-même, c'est cette multiplicité l'humanité pour Hegel, c'est être à la fois vengeur et puis le bon fils qui est Achille.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il faut des Achilles admirables que nous admirons, mais il faut aussi pour Hegel que les Achilles ne fassent pas la loi, qu'ils soient arrêtés, que quelques d'autres choses, d'autres forces fassent la loi et expriment des jugements dans les tribunaux. On peut dire les deux.
Oui, tout à fait. Achille, il fait partie de ces héros du droit avant le droit, ou des origines un peu fantasmées de l'histoire. Mais il est très très important que dans les tribunaux, pour Hegel, le juge, c'est la médiation, le tiers, celui qui n'est pas troublé par les passions des protagonistes.
Alors évidemment, qu'Achille soit admirable, ça ce n'est pas du tout difficile à penser pour Nietzsche.
Non.
Et pourtant, nous venons de dire que la vengeance n'est pas du tout une valeur. Alors, qu'est-ce qu'il aime ? N'est pas une valeur pour Nietzsche. Qu'est-ce que Nietzsche aimerait dans Achille ?
Je pense que, effectivement, il ne porterait pas un jugement très négatif sur Achille, précisément parce que c'est une vengeance effective, donc seulement passagère et qui s'épuise dans l'acte accompli. Alors que le problème de Nietzsche, c'est vraiment la vengeance qui, précisément parce qu'elle n'agit pas,
qui rumine,
qui s'installe en profondeur. Nietzsche dit dans certains textes, c'est un empoisonnement du corps et de l'âme. Et c'est celle-là qui lui pose véritablement problème et qu'il nomme ressentiment.
Au fond, c'est une noble agressivité qu'exprime Achille, qui n'a rien à voir avec avec les âmes non nobles et très faibles,
oui,
qui n'agissent pas ainsi dans l'excès. Il y a un excès chez Achille, mais qui font bien pire, au fond, dans oui, leurs pensées.
Après, c'est vrai que Nietzsche, quand il prend des exemples, prend plutôt des exemples d'hommes qui... Il dit, en fait, chez l'homme puissant, le ressentiment, soit il s'épuise dans une réaction immédiate, soit, en fait, il n'apparaît pas du tout. Et il prend l'exemple de Mirabeau, en disant que Mirabeau, en fait, ne pouvait pas pardonner parce qu'il oubliait. C'est-à-dire qu'il était...
Mais j'ai pas du tout compris cet exemple. Je sais que vous vouliez en parler.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce
que... En fait, que l'oubli, pour Nietzsche, est une faculté d'entrave active. C'est-à-dire... C'est
valorisé.
Oui, c'est la capacité d'assimiler, de digérer ses expériences, comme dit Nietzsche. Et c'est justement cette faculté d'oubli qui est entravée chez l'homme affaibli.
Et donc, il salue en Mirabeau la oui, capacité à avoir de l'oubli, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire à ne pas accorder d'importance excessive aux torts qui lui ont été faits. Et il dit, en fait, l'homme riche et épanoui ne peut jamais prendre longtemps au sérieux ses ennemis et ne va surtout pas remâcher, en fait, les torts qui lui ont été faits.
Vous êtes sûr que l'admiration pour Mirabeau est complète de la part de Nietzsche? Mirabeau, il a quand même déçu beaucoup de gens, était corrompu un peu. Vous êtes sûr? Ah, vraiment, c'est que un éloge de Mirabeau.
Dans la généalogie de la morale, il le décrit vraiment comme un type d'homme puissant et il salue en fait cette capacité à justement oublier les offenses qui lui ont été faites.
D'accord. Alors, je vous propose qu'on creuse cette question de l'agressivité saine chez Nietzsche par opposition au fait de ruminer une vengeance. Et à ce moment-là, c'est autre chose et c'est très peu noble. Comme Nietzsche dit lui-même dans l'Antéchrist que c'est dans son livre qui s'appelle La généalogie de la morale de 1887 qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire sur sa détestation du ressentiment. Il y a tout un passage où il revient là-dessus plus tard dans l'Antéchrist. Eh bien, écoutons La généalogie de la morale, le livre 2, alinéa 11.
Un mot ici, pour récuser des tentatives récentes visant à chercher l'origine de la justice sur un tout autre terrain, celui du ressentiment. Pour le glisser d'avance à l'oreille des psychologues, à supposer qu'ils aient envie d'étudier de près le ressentiment en tant que tel, cette plante s'épanouit à présent dans toute sa splendeur parmi les anarchistes et les antisémites. Et comme le même produit toujours nécessairement le même, on ne sera pas surpris de voir que justement de tels cercles produisent à nouveau des tentatives pour sanctifier la vengeance sous le nom de justice. Comme si au fond la justice n'était qu'une continuation du sentiment de l'injure subie. Et pour mettre en honneur après coup et dans leur ensemble les affects réactifs avec la vengeance. J'attirerai l'attention sur ceci. C'est l'esprit même du ressentiment qui fait naître cette nuance nouvelle de l'équité scientifique. Au profit de la haine, de l'envie, de la jalousie, de la défiance, de la rancune, de la vengeance. Car cette équité scientifique s'interrompt aussitôt pour laisser place à des accents d'hostilité et de parti pris mortel, dès qu'il s'agit d'un autre groupe d'affects, qui, ce me semble, ont une valeur biologique encore plus grande que ces valeurs réactives, et par conséquent seraient les premiers à mériter d'être scientifiquement jaugés et estimés. À savoir les affects proprement actifs, tels que l'appétit de domination, de possession, etc. L'homme actif qui agresse et transgresse est toujours 100 fois plus près de la justice que l'homme réactif, car il n'a nullement besoin d'évaluer son objet faussement et par préjugé, comme le fait et est contraint de le faire l'homme réactif. L'homme agressif a de tout temps eu à son avantage le regard plus dégagé, meilleure conscience, parce qu'il est le plus fort, le plus courageux, le plus noble. Inversement, on devine déjà qui a sur la conscience l'invention de la mauvaise conscience, l'homme du ressentiment.
Lucie Le Breton, vous allez me dire si je comprends correctement ce qui est dit là, si les mots que j'emploie sont corrects. On a l'impression que Nietzsche dit parfois on réhabilite la vengeance. Bon. Mais c'est bizarre, les mêmes qui font cela ont du mal par contre à célébrer des actes d'agressivité qui sont tout aussi naturels et qui sont même 10 fois plus nobles, c'est-à-dire une façon de s'affirmer, quand on a été piqué, on pique, etc. Donc lui, ce qu'il il veut en finir avec la logique de vengeance, qu'il trouve en général mauvaise, mais l'agressivité, c'est autre chose. Il voudrait en réhabiliter un peu la noblesse, c'est ça ?
En fait, ce texte, pour bien le comprendre, il faut voir que Nietzsche vise quelqu'un de précis, en fait, qui est Eugen Düring, chez qui d'ailleurs il a rencontré pour la première fois ce terme ressentiment chez cet auteur, même si après il le prendra plus précisément à Dostoïevski, dans une traduction française de Dostoïevski. Et Düring était un auteur qui effectivement considérait que la justice trouvait son origine dans la vengeance, et il était aussi un écrivain antisémite qui cherchait en fait, enfin à prétention scientifique, hein, c'est un antisémitisme à prétention scientifique, hein, d'où les allusions à l'équité scientifique dans ce texte. Et effectivement, donc, ce qu'il récuse, c'est cette manière de faire passer un esprit de vengeance, donc, qui, selon lui, anime cet auteur, pour de la justice. Et c'est intéressant qu'il y ait aussi une critique de l'antisémitisme ici dans la généalogie de la morale, parce qu'il y a des pages où effectivement Nietzsche n'est pas tendre avec le judaïsme, enfin, de même qu'il n'est pas tendre avec le christianisme. Mais en fait, ce passage montre que ça serait évidemment un contresens énorme que d'associer Nietzsche à l'antisémitisme.
D'autant qu'il détestait celui de Wagner, ouais, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il aime en fait dans la... Ce n'est pas ce qu'on appelle communément la vengeance. Il trouve que ça rumine, et M. Düring est parfaitement concerné. Ça rumine comme la haine est ruminée par les antisémites, si je simplifie un peu. En revanche, Achille, c'est bien lui, l'homme agressif qui se lève, qui a des affects et qui agit, qui est dans la, non pas dans les forces purement réactives, pour parler, je crois que c'est Deleuze qui aime beaucoup commenter les choses ainsi chez Nietzsche, mais dans les, quelque chose d'actif, de plein de vitalité. Et ça, comme par hasard, les philosophes, en général, n'aiment pas beaucoup. Enfin, à l'exception de Hegel, dont on vient de voir qu'il aimait bien, hein, mais oui.
Alors effectivement, ce que Nietzsche explique, c'est que le ressentiment, qui est une vengeance impuissante, néanmoins agit d'une certaine manière à travers en fait la négation, hein, c'est-à-dire que le ressentiment, il dit, son action est une réaction parce qu'il a besoin de nier, de déprécier quelque chose qui existe déjà pour pouvoir s'affirmer, et donc ce qu'il reproche au ressentiment. Alors effectivement, c'est Deleuze qui, par exemple, l'explique de cette manière-là, c'est assez intéressant. Il dit, pour l'homme réactif, en fait, il ne peut s'affirmer lui-même qu'à travers une double négation. C'est-à-dire, il dit, tu n'es pas bon, tu es méchant, je ne suis pas comme toi, donc je suis bon. Alors que l'homme actif va dire « je suis bon » et « tu es mauvais », ça va être une conséquence assez secondaire. Et donc le ressentiment est d'abord une négation, et en fait ne peut, l'homme du ressentiment, c'est celui qui est en fait animé par des pulsions qui ne peuvent parvenir à intensifier leur puissance que par la haine d'un ennemi. Et c'est cette force négative, en fait, que Nietzsche pense tout à fait nuisible.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi les choses ainsi ? Il y a une valorisation de la douleur dans le ressentiment. C'est par la douleur que j'ai éprouvée, que je suis grand, que je vaux quelque chose. Et il y a toute une élaboration autour de cette douleur qui agace Nietzsche et que le ressentiment ne cesse de faire fonctionner. Il déteste ça.
Alors, je pense
Achille, par exemple, pardon, mais oui. Achille, il n'a pas un discours sur sa douleur. Il fait des choses, elle lui fait faire des choses, on peut les regretter, il faut que la loi passe par-dessus, que ce ne soit pas juste Achille qui fasse la loi, mais il y a quelque chose d'humain, de vivant. La valorisation de la douleur, c'est insupportable pour Nietzsche.
Alors, c'est surtout que je pense que pour lui, l'homme du ressentiment est un être souffrant. Et qui ne souffre pas seulement parce qu'il a subi quelque chose, mais qui souffre de lui-même. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il associe le ressentiment à l'état de maladie, à l'état de faiblesse. Il explique en fait que la faiblesse fait naître presque spontanément le ressentiment. Précisément parce que l'homme affaibli ne parvient plus à oublier, n'a plus la force d'oublier. Et donc, tout l'agresse.
Il s'accroche à
tout l'offense, tout le touche trop profondément. Donc c'est le contraire de ce qu'on disait sur Mirabeau. C'est tout l'offense. Et donc, c'est pour ça que pour Nietzsche, dans les états de faiblesse et chez les hommes affaiblis, en fait, le ressentiment naît presque naturellement. Et le drame du ressentiment, je disais tout à l'heure que c'était un narcotique, c'est qu'en fait, il va aggraver cet état de souffrance. C'est-à-dire que le problème du ressentiment, c'est qu'il se traduit par une dépense énorme de force nerveuse. Le fait de ressasser, de remâcher, d'imaginer, qui va conduire à un affaiblissement encore plus grand. Affaiblissement encore plus grand qui va générer encore plus de ressentiment. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que Nietzsche appelle une décadence. Une décadence, c'est le fait de se tourner spontanément vers ce qui va aggraver mon mal. Et donc, c'est ainsi qu'il voit le ressentiment.
Alors, le ressentiment est souvent religieux. Nietzsche le pense. Il pense aussi que c'est devenu une passion très forte en démocratie. Alors, je vais vous faire écouter un texte plutôt sur le judaïsme et le christianisme, qui aurait, en dépit de la lumière qu'a été pour Nietzsche Jésus, qui lui n'était pas dans le ressentiment, tout ça a été ravalé, et finalement il y a une continuité, on adore ça, la souffrance et la rancune et la rumination des douleurs. Écoutez ce passage de l'Antéchrist de Nietzsche.
Le christianisme a livré une guerre à mort, issue des recoins les plus secrets des mauvais instincts, à tout sentiment de respect et de distance d'homme à homme, c'est-à-dire ce qui conditionne l'élévation et la croissance de la culture. Il s'est servi du ressentiment des masses pour forger son arme principale contre nous, contre tout ce qui, noble, gai, généreux sur terre, contre notre bonheur sur terre. Les évangiles constituent un témoignage inappréciable de la corruption, déjà irrésistible au sein de la communauté primitive. Ce que Paul a mené jusqu'à son terme avec le cynisme logique d'un rabbin n'était pourtant que le processus de déchéance commencé à la mort du Sauveur. Le christianisme a besoin de la maladie, à peu près comme l'hellénisme a besoin d'un surplus de santé. Rendre malade est la véritable intention cachée de tout le système thérapeutique de salut de l'Église. Le christianisme se fonde sur la rancune des malades, leur instinct tourné contre les bien-portants, contre la santé. Tout ce qui est bien réussi, fier, pétulant, la beauté surtout, lui blesse les oreilles et les yeux. Une fois de plus, je rappelle l'inestimable parole de Paul. Ce qui est faible aux yeux du monde, ce qui est folie aux yeux du monde, ce qui est vil et méprisé aux yeux du monde, Dieu l'a choisi.
Je vais bien sûr vous interroger, vous êtes une spécialiste de Nietzsche, Lucille Breton, mais là je voudrais faire réagir la spécialiste de Hegel que vous êtes, Claire Pagès. C'est vrai que Hegel admire la grandeur grecque, mais il pense que judaïsme puis christianisme ont une grandeur aussi, mais c'est très différent de Nietzsche, puisque c'est du côté de la rationalité, d'un noyau rationnel existant dans les religions, qu'il valorise l'histoire des religions. Il pense que quelque chose se joue malgré tout, malgré leurs faiblesses, leurs défauts.
Oui, il voit un progrès de la réalisation de la liberté. À cet égard, le modèle grec et le modèle d'Achille, il n'a pas que des vertus pour Hegel. Cette vengeance d'Achille, cet homme qui est Achille, il y a une incomplétude du modèle grec de la vengeance pour Hegel du point de vue de l'action, et c'est une action incomplète parce que c'est, et là c'est j'y pensais en lisant le texte, le texte de Nietzsche, c'est une action qui a besoin d'être provoquée, c'est-à-dire que Achille agit quand il est outragé et seulement s'il est outragé. Et il y a là, pour Hegel, c'est plutôt un événement qu'une action, la manière dont Achille se comporte et le modèle de la vengeance. Et donc, il va essayer de faire valoir des modèles d'action qui sont des modèles complets, qui n'ont pas besoin d'être provoqués de l'extérieur, comme le vengeur ne se met en action que si on vient l'outrager, le provoquer. C'est ce qui va... Oui. Chercher d'autres...
Et qu'est-ce qui est grand pour Hegel dans l'histoire monothéiste? Qu'est-ce qui fait... Si on imaginait un Hegel vivant du temps de Nietzsche, c'est un pur... pure imagination, qu'est-ce qu'il répondrait à Nietzsche qui dit « Mais c'est le goût de la faiblesse, c'est la sanctification de la douleur, c'est Dieu aime les faibles, c'est insupportable, le christianisme en particulier, dit Nietzsche, tout ce qu'on vient d'entendre. » Qu'est-ce que Hegel lui répondrait?
Pour lui,
que c'est de la rationalité en marche?
Non, pour lui, dans le christianisme, il y a la reconnaissance de la valeur inestimable de toute personne, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a cette égalité, et tous sont libres, et le fondement, qui va être le fondement du droit, c'est la personnalité, la reconnaissance du jeu, et du jeu qui pense, et qui...
L'individu.
Et qui connaît son action. Ouais.
Et qu'est-ce que répondrait Nietzsche, Lucie Le Breton? Il n'aime pas ça, hein, l'égalité.
Alors, moi, je nuancerais quand même. C'est-à-dire que Nietzsche ne porte pas qu'un jugement négatif sur le christianisme en dépit de ses formules un peu à l'emporte-pièce. Quand on regarde de près, il considère également que le christianisme, enfin le judaïsme et le christianisme ont apporté quelque chose, et notamment une profondeur, une lucidité psychologique que ne possédait pas du tout l'Antiquité. Je pense à un fragment posthume d'Aurore où Nietzsche dit... que le christianisme a enseigné une formidable défiance envers nous-mêmes et la connaissance de l'homme, et il ajoute « tels sont nos avantages sur l'Antiquité ». C'est-à-dire que quand Nietzsche se revendique des moralistes, il sait très bien qu'il se revendique d'un mouvement chrétien. Et quand il dit « les moralistes sont de profonds psychologues, ce sont ceux qui sondent les reins », ce sont de très grands connaisseurs d'hommes, il sait très bien qu'ils sont les héritiers de cette profondeur issue paradoxalement du ressentiment. C'est-à-dire que Nietzsche dit quand même dans la généalogie de la morale que les hommes du ressentiment sont les plus intelligents, que les faibles ont plus d'esprit.
Oui, d'accord, mais...
Oui, alors...
Excusez-moi, mais la charge de Nietzsche est telle...
Oui, alors,
si vous voulez, revenir sur la charge... Le problème du monothéisme, pour lui, c'est quand même que tout cela est né d'une vision d'un dieu vengeur qui vengera nos maux dans un salut, et que ça, c'est ça qui est insupportable, et à fabriquer des morales de vengeurs.
Oui, bien sûr.
Je me trompe?
Non, mais c'était juste pour montrer la complexité, la nuance chez Nietzsche,
qui est toujours
nuancée en dépit des apparences.
Peut-être même un peu contradictoire parfois, mais bon.
Ça se discute.
Ouais, ouais.
Mais effectivement, en fait, Nietzsche pense que les valeurs chrétiennes sont issues du ressentiment et donc de ce qu'il appelle une guerre spirituelle, une guerre de ruse, qui va consister à jeter le discrédit en fait sur les valeurs antiques de la manière suivante, c'est-à-dire en inventant des valeurs qui vont être strictement contraires aux valeurs antiques. C'est-à-dire que Nietzsche explique que pour le monde antique, bon égale beau, puissant, heureux, aimé des dieux. Et le judéo-christianisme va inventer une nouvelle équivalence qui est bon égale misérable, voilà. Faible, oui. Souffrant, laid. Et pour Nietzsche, le Christ, c'est-à-dire le Dieu mis en croix, est le symbole de ce renversement. C'est-à-dire que Nietzsche dit dans certains textes, mais il faut bien voir le paradoxe insondable que représentait pour le monde antique l'idée d'un Dieu mis en croix.
Oui.
C'est-à-dire que c'était une manière de dire que tout ce que représente la croix, c'est-à-dire la souffrance, la mort, la faiblesse, l'ignominie, parce que c'était, il rappelle que c'était oui. quand même un supplice particulièrement honteux, réservé à la canaille.
Oui.
Il dit, bah, c'est une manière de dire que tout cela est divin.
Et ça, évidemment, pour un grec, ce serait incompréhensible. Et pour Nietzsche, ça l'est aussi, d'autant que pour lui, Jésus était un grand guerrier. Et la façon dont Paul a manifesté sa souffrance et le christianisme, il déteste. Mais je voudrais qu'on dise une chose maintenant sur la maladie.
Oui.
Il déteste qu'on rumine sa maladie et qu'on en sorte une humeur vengeresse en permanence. Et dans Ecce Homo, qui a été publié de manière posthume, il se demande si finalement ce n'est pas sa propre maladie. Terrible, il a horriblement souffert de migraines, de syphilis qui était en train d'entrer dans le dernier stade avant la paralysie, de maux de tête épouvantables jusqu'aux nausées. Il n'a pas toute sa vie travaillé à ne jamais être un homme du ressentiment, en dépit des souffrances terribles qu'il a connues.
Oui, c'est vraiment tout à fait ça. Il explique effectivement que quand on est malade, on ne peut pas se permettre le ressentiment.
Pourtant, c'est souvent
l'occasion de le manifester. C'est à la fois le réflexe le plus naturel.
Oui.
C'est-à-dire, le malade spontanément se porte vers le ressentiment.
Il veut se venger de quelque chose.
Voilà, pour soulager sa souffrance, pour endormir sa souffrance. Et en même temps, c'est la chose proscrite par excellence parce que, justement, ça va l'affaiblir et ça va aggraver, en fait, son état. Et donc, Nietzsche, effectivement, dit « Je me suis toujours interdit les sentiments de vengeance et de rancune, particulièrement dans mes états de faiblesse. » Et donc, il dit « Quand j'étais faible, je me les interdisais comme ce qu'il y avait de plus nocif. Et quand j'allais mieux, quand je retrouvais la santé, je me les suis interdits comme au-dessous de moi. »
Entendez l'air de la vengeance dans la flûte enchantée de Mozart. Il s'agit du second air de la Reine de la Nuit dans l'acte 2. Et c'est une version là que vous entendez avec comme chef d'orchestre Carl Böhm, la soprano Roberta Peters, l'orchestre philharmonique de Berlin de 1964. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous avez été d'une grande clarté, je trouve, sur Hegel et Nietzsche. Merci Claire Pagès et Lucie Le Breton. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Comment faut-il être stylé ? On entend beaucoup aujourd'hui, et je fais partie des générations qui s'en étonnent, on entend beaucoup aujourd'hui cette expression dans certaines générations nouvelles, il est stylé, être stylé, et même parfois tout court, stylé, avec une, un ton d'exclamation admiratif, devant le comportement de quelqu'un qui nous frappe par son élégance et sa singularité. Dans quel que soit le domaine finalement, stylé ne se réduit pas aux habits, aux vêtements, aux coupes de cheveux, aux paires de chaussettes, aux blousons. Stylé peut s'appliquer à une manière de parler, à une manière d'agir, à une manière de résister aussi à l'air du temps. Trop stylé, ça veut dire aussi, c'est stylé d'une manière singulière qui vient manifester quelque chose d'une vérité générale. Dans cette exclamation qui revient aujourd'hui au cœur de nos sociétés, on entend le fond du problème du style dans la vie humaine. En effet, le style, c'est l'individualisation des pratiques humaines en tant qu'elle est à la fois un ornement en surface, quelque chose qu'on montre, qu'on admire, mais aussi quelque chose de profond qui dénote un style de vie et une manière aussi de résister au style d'une époque. Bien entendu, il y a un risque du stylé, pour ainsi dire, une pathologie possible du stylé, et chacun le ressent aujourd'hui. Quand on s'empare de cette exclamation, de cette extase possible du style, de ce que les sociologues appellent l'importance de la belle vie chez les générations dans les démocraties, chez les jeunes en particulier dans les démocraties, quand on s'empare de cette volonté d'une vie belle, singulière, répondant à une esthétique autant qu'à une éthique, quand on s'en empare du point de vue commercial, alors est stylé celui qui répond à des normes extérieures du stylé. Oui, il y a sûrement une production en masse du stylé qui n'a plus rien de stylé. Et alors on est stylé selon des normes non plus individuelles et inventées et créatrices et ouvertes, mais closes et destructrices et exclusives. On veut être plus stylé que les autres. Il faut peut-être, pour comprendre l'importance du style dans la vie humaine, se reporter à un texte très célèbre dont on retient en général une seule phrase. C'est le discours sur le style que Buffon prononça quand il fut reçu à l'Académie française en 1753, à l'âge de 46 ans, au cœur du 18e siècle. Buffon est célèbre pour ce discours sur le style dont on retient souvent une seule phrase, le style. C'est l'homme même. Le style, en effet, pour lui, a quelque chose de très profond. C'est la façon dont un être humain dépasse et organise toutes ses connaissances, par exemple un écrivain, pour y ajouter en plus, en quelque sorte, le supplément de ses passions. Le style, c'est l'homme même. On croyait trouver un philosophe, disait déjà Blaise Pascal, et on trouve un homme. C'est ce que nous voulons trouver dans le stylé. Mais Buffon expliquait que pour être stylé, il faut maîtriser parfaitement les connaissances, que le grand écrivain, c'est celui qui a beaucoup travaillé et qui ensuite se lâche et dont on reconnaît ses passions, sa personne, son humanité même dans sa singularité profonde. Oui, il faut être stylé, mais à condition peut-être aussi de maîtriser tous les sujets de la discipline ou de l'exercice ou de la pratique, de la technique. Où l'on est stylé, que ce soit la science, la littérature, l'art de s'habiller, l'art de se conduire dans la société, l'art de parler, de vivre avec autrui. Oui, soyons stylés les uns avec les autres, mais en maîtrisant tous les enjeux qui font que cette singularité apparaîtra comme le petit bonus, le supplément de l'humanité même. Le style, c'est l'homme même. Être stylé, c'est l'humanité, à condition de ne pas sombrer dans la parodie d'elle-même.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Jean-Guy Linmège. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!